Donc, au milieu d'une démarche globale dont l'objectif est de lancer un mouvement collectif qui a vocation à s'inscrire dans la durée. En Auvergne-Rhône-Alpes, la première réunion technique du groupe de travail transport s'est tenue le 5 mars 2024 en format restreint pour permettre de partager l'état des lieux et les premières contributions pour relever les défis identifiés. Aujourd'hui, lors de notre deuxième réunion du groupe technique élargi, doit permettre l'appropriation des défis et des travaux par un plus grand nombre de structures et d'acteurs et de recueillir vos contributions pour atteindre ces défis via un formulaire qui vous sera diffusé après le webinaire. Pour mémoire et bien situer les échanges de ce jour, le secteur des transports présente des enjeux très forts en matière d'empreinte climatique et d'évolution climatique. Plus de 50 leviers identifiés qui s'accompagnent d'actions concrètes dans toutes les dimensions de nos vies, mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se déplacer, mieux consommer, mieux produire et mieux préserver et valoriser nos écosystèmes. Alors, sont regroupés dans deux panoramas des leviers, des différents leviers. Premier panorama sur les leviers porte sur les leviers de décarbonation par secteur et notamment pour les transports de marchandises et de voyageurs en bleu sur le diagramme ou la cartographie des leviers qui s'affichent. Auvergne-Rhône-Alpes représente 12% de l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions du secteur du transport représentent 14,3 millions de tonnes équivalent CO2 en 2022, soit 30% des émissions de gaz à effet de serre de la région, qui représente le premier poste d'émission. 98% de ces émissions de gaz à effet de serre de transport sont liées au transport routier, que ce soit de marchandises ou de voyageurs. Ce secteur a aussi le premier poste de consommation d'énergie, donc 98% de produits pétroliers. Vous voyez les enjeux et vous connaissez ces enjeux en matière d'impact sur le climat. Une inflexion baissière.
Agir et répondre. On a effectivement nation c'est le
Recording in progress.
Effectivement, Didier Borel. Et pour des voyages sont dix pour votre écran. En l'occurrence, quelle est la part des transports dans les émissions directes de gaz à effet de serre en région Auvergne-Rhône-Alpes? Bon. Vous avez plusieurs réponses qui sont possibles. 20%, 30%, 40%. Alors, a priori, la majorité d'entre vous s'oriente pour 30 ou 40%. Les derniers participants votés. Et effectivement, vous étiez une majorité à penser qu'il s'agissait de 30%. Vous aviez la bonne réponse, 30%, donc, qui représente la part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre de la région. Deuxième petite question quiz. Effectivement, dans les transports, quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre qui est liée au transport routier spécifiquement? 78%, 88%. 98%. J'ai l'impression que les avis sont plus partagés sur cette question. Ça vote encore. Vous avez effectivement répondu en majorité 88%. Et pourtant, c'est bien 98% effectivement de part liée au transport routier dans les émissions à gaz à effet de serre sur l'enjeu des transports au global. Ce qui me permet de faire la transition toute trouvée avec Antoine Goupil qui va effectivement partager l'état des lieux du sujet des transports. Pardon, je vais y arriver. Et qui va nous éclairer effectivement sur ces différents chiffres.
Bonjour à tous, merci Aurélie. Donc, oui, je vais vous partager le diagnostic qui a été réalisé par le groupe de travail transport sur le secteur des transports et notamment les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme évoqué dans le quiz, le secteur des transports représente bien 30% des émissions de gaz à effet de serre de la région, soit 14,3 millions de tonnes équivalent CO2 en 2022. Et c'est le premier poste d'émission devant l'industrie ou encore l'agriculture. 90% des émissions de gaz à effet de serre donc, sont liées au transport routier et c'est également le premier poste de consommation d'énergie avec notamment 98% de produits pétroliers. Et si on regarde le graphique à droite, on se rend compte que le véhicule individuel occupe une part très importante dans ces émissions de gaz à effet de serre, avec plus de 50% des émissions qui sont dues justement à l'utilisation de ces véhicules individuels. 45% pour le transport de marchandises, et ensuite les autres moyens de transport viennent compléter ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on peut remarquer sur le graphe qui est en bas à droite, c'est qu'on a une stagnation les émissions de gaz à effet de serre dans des années 90 jusqu'aux années 2016, avec ensuite une inflexion baissière qui est plus significative entre 2019 et 2022. Et donc, c'est plutôt une bonne tendance qui est encore à accélérer. On remarque que la voiture et le transport de marchandises ont un impact considérable sur les émissions du secteur et elles dépendent donc de quatre paramètres, la demande totale, la part modale de la voiture, du transport routier, le taux d'occupation et de chargement et l'intensité carbone des moteurs. Le SGPE a fixé pour le secteur des transports des objectifs, et comme l'a dit Eric, qui ont été déclinés en 8 leviers. 6 leviers pour le transport de voyageurs, donc des véhicules électriques, efficacité et carburant décarbonés, vélo et transport en commun, un levier qui porte sur la baisse des déplacements, un levier sur le covoiturage et un levier sur les bus et cars décarbonés, et 2 leviers sur le transport de marchandises, donc qui concernent l'efficacité, la sobriété logistique et la décarbonation et la multimodalité. Et donc, ces objectifs-là... Donc, l'objectif de réduction affiché par le SGPE pour le secteur de transport en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un objectif de réduction de 7 250 kilotonnes de CO2, soit une baisse des émissions de 34% entre 2019 et 2030. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà fait une part de cette baisse en 2002, qui était, d'ici 2022, qui était liée donc à l'inflexion baissière que j'ai évoquée précédemment. On peut voir aussi sur ce graphique qu'on prévoit une hausse tendancielle et cette hausse-là sera donc à maîtriser, à contrôler pour éviter justement de dépasser les objectifs. Et donc, les objectifs fixés par le SGPE ne comptabilisent que les émissions du scope 1, donc qui sont liées principalement à la consommation des carburants fossiles dans les moteurs thermiques. Donc là, on ne prend pas en compte l'analyse de cycle de vie en cours complet, par exemple, des véhicules, notamment donc la fabrication des véhicules, elle est considérée dans le thème industrie, lorsqu'ils seront produits en France. La production d'électricité également n'est pas à considérer, elle est considérée dans le thème énergie. La construction, plutôt dans le thème industrie, gestion des infrastructures, et plutôt dans le thème sobriété foncière. Donc, on constate que la voiture individuelle et le transport de marchandises jouent un rôle important dans la décarbonation des transports. Et on peut résumer un peu les leviers de décarbonation sur la voiture et sur le transport de marchandises en quatre thématiques. La demande totale, les émissions, elles dépendent forcément de la demande totale de mobilité voyageurs et de transport de marchandises. Et donc, on a un enjeu de sobriété, que ce soit sur la mobilité et sur la demande de marchandises. Et on constate globalement que l'usage de la voiture tend à augmenter, ce qui est un peu contraire avec aux effets qu'on attend. La part modale, l'objectif ici, c'est de limiter l'utilisation des modes de transport carbonés, notamment la voiture individuelle, d'insister sur le report modal vers les transports en commun, ou alors vers le transport massifié type fret ferroviaire et fluvial pour le transport de marchandises. On peut également jouer sur le taux d'occupation et le taux de chargement des véhicules. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'occupation des véhicules particuliers est de 1,4, donc c'est très faible, et 70% des conducteurs sont des autosolistes. Donc il faudra jouer sur le covoiturage pour pouvoir améliorer le taux d'occupation des véhicules. Et enfin, le dernier levier qui est celui entre guillemets de la technologie, c'est de diminuer l'intensité carbone de la voiture ou du transport routier de marchandises. Donc là, ça passe par l'électrification et la décarbonation des motorisations. Mais on peut également penser à d'autres mesures pour améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, donc notamment privilégier des véhicules plus légers et donc plus efficaces, ou encore pratiquer l'éco-conduite. Une mesure qui pourrait être très efficace, c'est également la baisse de la vitesse maximale sur les routes et les autoroutes pour induire une baisse directe de la consommation et donc des émissions. Donc, si on revient maintenant plus en détail sur la mobilité et le transport de voyageurs, donc là, ce qu'on peut regarder, c'est les parts modales pour les déplacements de domicile-travail. Ce qu'on constate, c'est une forte domination de la voiture individuelle, donc avec 74% des parts. Et ce qui est assez alarmant, c'est que l'utilisation de la voiture individuelle est également prépondérante pour les trajets de moins de 5 km, avec en effet 62% des actifs qui résident à moins de 5 km de leur travail qui utilisent la voiture pour leur déplacement domicile-travail. Et bien sûr, quand cette distance dépasse les 5 km, alors là, on a une part beaucoup plus importante de 87% des actifs. On a un taux de motorisation en Auvergne-Rhône-Alpes qui est assez élevé, avec 84,6% des ménages. Et un point positif, c'est que la région regroupe donc 12% du parc national de véhicules électriques ou de véhicules hybrides. Donc, si on regarde le graphe à droite, on constate quand même que les données évoquées ici concernent globalement que le domicile-travail, parce qu'on a tendance à se concentrer sur cette thématique-là, que ça concerne quand même une mobilité qui est essentielle, qui est entre guillemets contrainte et entre guillemets subie et qui est un peu obligatoire pour les personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle constitue que 22% des kilomètres totaux parcourus par les Français. Et donc, il y a une grande importance à accorder aux mobilités du quotidien, que ce soit pour les loisirs ou le tourisme. Et donc, il faut accorder une grande importance au transport en commun urbain, mais également interurbain, justement pour arriver à décarboner ces mobilités-là qui jouent beaucoup sur les émissions du secteur des transports et notamment sur les émissions des voyageurs. Donc, on a identifié trois défis pour la mobilité voyageur. Donc, le premier défi, je reviendrai un peu plus en détail dans les slides suivantes, qui concerne donc la réduction du besoin de déplacement. Et donc, on l'a formulé comme cela, optimiser et réduire à la source les déplacements de 10% d'ici à 2030. Le deuxième défi concerne plus particulièrement le report modal. Et donc là, on l'a formulé, promouvoir et développer les transports en commun, la mobilité active, le covoiturage et la mobilité partagée pour réduire de 15% l'utilisation de la voiture individuelle. Et enfin, le dernier défi, celui qui repose plus sur les choix technologiques, ce sera donc développer les motorisations et carburants décarbonés et renforcer l'efficacité des véhicules pour atteindre notamment 15% de véhicules électriques légers en 2030. Donc, sur le premier défi, ce défi-là, donc optimiser et réduire à la source les déplacements de 10% d'ici à 2030, ce défi repose sur le levier un peu zéro de la décarbonation, qui est le levier de la sobriété, et donc notamment la réduction du nombre de kilomètres parcourus, notamment avec des moyens carbonés. Donc, une part importante repose sur les changements de comportement et les changements de paradigme, avec notamment une sensibilisation et une formation du public. Mais il y a également un rôle de la collectivité et des entreprises à réduire justement les besoins en déplacement et la nécessité de certains déplacements. Par exemple, donc, quelques actions emblématiques qui ont été proposées dans le cadre du travail du GT, de la réunion numéro 1 du GT Transport, serait donc encourager et promouvoir le télétravail, fixer des objectifs et des règles visant à favoriser l'implantation des activités au droit des infrastructures de transport et limiter le desserrement des activités, ou également développer des téléprocédures pour limiter les besoins de se déplacer. Et donc là, on a aussi un point important et un enjeu important qui est le tourisme, qui engendre quand même une part très importante des émissions dans la région. Et le trajet aller-retour pour les vacances constitue une part très importante des émissions liées aux activités touristiques. Maintenant, si on passe au défi numéro 2, qui serait donc promouvoir et développer les transports en commun, la mobilité active, le covoiturage et la mobilité partagée pour réduire de 15% l'utilisation de la voiture individuelle. Donc là, il s'agit tout d'abord d'optimiser l'exploitation des infrastructures existantes, mais également de développer de nouveaux projets pour compléter et renforcer l'offre existante. Donc, une des difficultés, c'est d'arriver à massifier assez les flux pour pouvoir développer une offre qui soit rentable. Mais là encore, le changement de comportement aura une importance très importante. Notamment, il faut arriver à réordonner le paradigme des déplacements. Dans un premier temps, il faut privilégier la mobilité active lorsque cela est possible, donc pour les petits déplacements, la marche ou le vélo. Quand c'est impossible ou que les distances sont trop importantes, on se tourne vers l'utilisation des transports en commun. Et en dernier recours, l'utilisation de la voiture particulière. Et même dans ce cas-là, il faut veiller à essayer de favoriser et utiliser le covoiturage. Donc, quelques actions emblématiques qui sont ressorties lors de la réunion 1 du groupe de travail, donc, notamment la démarche CERM, donc la démarche des services express régional métropolitain, un développement d'une offre ferroviaire, notamment TER, ou encore de l'offre d'OCAR avec une décarbonation de la flotte. Ce qui est aussi important à noter, c'est de ne pas négliger donc l'interurbain et les déplacements de longue distance. Et ça, ça fait encore écho à l'enjeu de la mobilité touristique au sein de la région. Donc, on peut citer par exemple l'exemple des stations de ski qui sont très présentes dans la région, où le voyage aller-retour vers les stations de ski représente environ la moitié des émissions imputables aux activités des 10 stations. Donc, c'est un enjeu majeur pour la décarbonation du tourisme. Donc enfin, si on passe au dernier défi de la mobilité voyageur, qui concerne donc les choix entre guillemets technologiques, et donc je vais le reformuler, c'est donc développer les motorisations et carburants décarbonés et renforcer l'efficacité des véhicules pour atteindre notamment 15% de véhicules électriques en 2030. Et donc là, ce défi-là repose sur des changements de technologie, mais il faut encore une fois pas oublier le levier de la sobriété qui sera toujours présent. Dans un premier temps, on peut relativiser le besoin d'un véhicule individuel de manière à ne pas faire du 1 pour 1, remplacer un véhicule diesel pour un véhicule électrique, mais essayer de réduire la taille du parc, la taille totale du parc. Quand le véhicule individuel est absolument nécessaire, dans ce cas-là, le changement de paradigme, c'est de privilégier les véhicules les plus efficaces, donc des véhicules petits, des véhicules légers. Et on peut également prendre d'autres mesures pour pouvoir renforcer justement l'efficacité de ces véhicules avec donc l'éco-conduite ou encore une baisse de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes. Par exemple, le passage d'une limitation de vitesse de 130 à 110 sur autoroute, ça implique une baisse de la consommation de 7% en moyenne. Donc, ça permet de réduire drastiquement les émissions liées aux véhicules individuels. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur ce défi-là et laisser la parole aux intervenants et aux témoignages.
Peut-être avant ça, quelques petites questions effectivement des participants qui ont été remontées encore une fois via le chat. Et une question d'ailleurs qui fait écho au dernier défi sur le développement effectivement des énergies décarbonées, ou en tout cas des motorisations et des carburants décarbonés. La question était, est-ce que le biométhane non injecté, donc un biocarburant, est considéré comme une solution en Auvergne-Rhône-Alpes pour décarboner le transport routier et les engins agricoles?
Alors, oui, c'est une solution qui est envisagée. Alors, bien sûr, il y a une tension sur la ressource en biocarburant et notamment en biométhane. Et donc, cette solution-là, elle sera à privilégier pour donc, le transport notamment de longue distance, le transport lourd de longue distance, ou encore la décarbonation de l'aérien et également l'utilisation pour les engins agricoles. Donc oui, c'est bien une solution qui est envisagée en Auvergne-Rhône-Alpes. On ne passera pas que par l'électrification.
Merci Antoine. Autre question qui est de savoir comment est considéré le transport aérien dans les chiffres présentés.
Alors, le transport aérien, les objectifs de décarbonation du secteur des transports aériens n'ont pas été territorialisés et donc ne sont pas intégrés dans le travail du groupe de travail sur le secteur des transports en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais par contre, ils font l'objet d'une stratégie nationale de décarbonation, avec notamment, comme je disais juste avant, des objectifs d'intégration de biocarburants. Dans les avions pour pouvoir décarboner ce secteur-là.
Ok, donc sujet effectivement plutôt traité à l'échelle nationale. Autre question, peut-être effectivement sur l'enjeu du tourisme aussi que tu as évoqué. Compte tenu de l'importance du secteur touristique dans le PIB régional et sachant que le tourisme en France constitue 11% des émissions de gaz à effet de serre et compte tenu que 75% de ces émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports, Est-ce qu'il y a un focus qui est prévu sur ce sujet? En tout cas, est-ce qu'il est
Alors,
bien intégré dans le scope des réflexions?
oui, donc le sujet du tourisme est un sujet considéré à part entière et qui est bien intégré donc, dans la problématique du GFT sectoriel. Il y a également une stratégie nationale liée à la décarbonation de ce secteur d'activité-là. Mais en tout cas, oui, on prend en compte cette problématique-là et elle sera traitée au même titre que les autres. Dans le cadre du GD.
Merci. Autre question, je les prends au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, comment va-t-on pouvoir fournir la puissance électrique pour augmenter le nombre de bornes IRVE dans les villages et dans les villes? Parce qu'on parlait aussi de mobilité électrique.
Alors, donc c'est. La forte hausse de la consommation électrique liée donc à l'électrification des véhicules, elle est bien prise en compte. Donc RTE annonce une augmentation de 10% de la consommation électrique totale, avec également un enjeu de pilotage de la recharge pour pouvoir lisser les appels de puissance. Et donc cet enjeu-là, il a bien été identifié et il sera traité dans le cadre du GT Énergie.
Super. Autre question qui concernait plutôt le défi 1, où on parlait effectivement de télétravail. A-t-on pris en compte l'augmentation de CO2 qui est liée au serveur? Puisqu'effectivement, qui dit télétravail dit usage a priori d'Internet et de l'ordinateur depuis ses choix. Ils ne sont pas toujours basés en France. Donc voilà, la question est de savoir si ça ne déplace pas le problème.
Oui, donc l'impact est bien pris en compte et bien évalué. Et de toute façon, il existe des solutions de décarbonation pour l'utilisation de ces serveurs-là. Et en relocalisant en France l'utilisation de enfin, ces serveurs-là, ça permet d'utiliser une électricité qui est décarbonée. Et donc, ça permet encore une fois de limiter l'impact de l'augmentation de l'utilisation de ces serveurs. Et donc, c'est encore un point positif pour le télétravail.
Merci. Je vais reprendre encore deux questions et puis après, on va effectivement avancer. Mais une question effectivement sur comment massifier le passage à 15% des véhicules électriques en 2030, sachant qu'on est aujourd'hui qu'à 2,5%. Donc, effectivement, les ambitions paraissent importantes. Quels sont les leviers peut-être qui ont déjà été identifiés?
Alors, l'objectif sur l'électrification du parc de véhicules, il est très ambitieux. En 2023, on compte 78 000 véhicules électriques en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, l'objectif affiché, c'est 650 000 en 2030. Donc, il faut nécessairement augmenter de manière assez importante la vente de véhicules électriques neufs. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même une accélération du nombre de ventes de véhicules électriques dans la région. Entre 2021 et 2022, on a augmenté de 3 points, donc ce qui est plutôt positif, on est sur une bonne tendance, et donc il est nécessaire d'accélérer. Ce qu'on peut quand même souligner, c'est que 55% des véhicules neufs qui sont achetés en Auvergne-Rhône-Alpes sont achetés par des entreprises. Donc le rôle des entreprises est majeur pour atteindre cet objectif-là. Et donc là, est mis en place des mesures fiscales et notamment une obligation de renouvellement des flottes avec un taux de véhicules électriques en fonction des années, qui permettra donc d'atteindre cet objectif-là et de faire porter un peu cet effort par les entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que la trajectoire d'électrification des flottes pour les particuliers, elle suit la cible et la trajectoire, et que les entreprises sont encore, le secteur privé est encore en retard, mais les mesures incitatives vont permettre d'atteindre la cible et d'atteindre les 15% de véhicules électriques dans le parc.
Merci Antoine. On prend une dernière question. Alors, je rappelle que toutes les questions qui sont posées via le chat seront capitalisées et on répondra bien dans le compte-rendu. Mais effectivement, une dernière question, pardon, évoquée ici sur l'enjeu de territorialisation dont on parlait tout à l'heure. Pour définir les objectifs dans certains territoires qui sont traversés par beaucoup d'autoroutes, comment peut-on, par rapport à un département plus rural, gérer les émissions dues aux voitures ? Comment sont faits les calculs entre effectivement des territoires traversés par des autoroutes et d'autres qui ne le sont pas?
Je vais essayer d'apporter une réponse. Par exemple, pour la partie logistique, est pris en compte le transport de marchandises comptabilisées selon le lieu de chargement et déchargement. Et donc, on prend en compte, du coup, sur ces transports-là, le transport national et international pour ce qui concerne les entreprises françaises. Voilà, donc, du coup, typiquement, un centre logistique qui va desservir des entreprises situées en France, on prend en compte sur la région les tonnes de kilomètres parcourus pour aller desservir ces entreprises sur la partie du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et pareil pour les parties relatives au transport international. Donc, on prend en compte, mais selon le lieu de chargement, déchargement pour ce qui concerne les entreprises françaises.
Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On aura d'autres moments, effectivement, dans cette présentation. On aura ce petit jeu de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au fur et à mesure. Je propose effectivement maintenant qu'on passe à une partie de témoignages. Et effectivement, je vais demander à Frédéric Aguilera, vice-président en charge des transports au sein du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, de se joindre à nous pour pouvoir partager effectivement son retour d'expérience côté région.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de cette COP régionale. Effectivement, plusieurs reprises tout à l'heure dans les trois principaux défis pour la mobilité voyageur, un certain nombre d'objectifs d'une certaine manière incombent partiellement à la région, entre autres comme autorité organisatrice en matière de TER. Donc évidemment, nous avons redéfini nos objectifs et nous allons essayer de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de ces défis qui ont été présentés pour réduire les émissions carbone sur notre territoire et accompagner les changements et les différentes mutations. C'est pour ça que nous avons présenté, et c'est tout l'objet, c'est bien la philosophie générale de notre feuille de route que nous avons présentée et votée en décembre dernier au niveau du Conseil régional. Une feuille de route qui, ça a été évoqué aussi, n'oppose pas les modes. L'idée, effectivement, c'est de se dire que pour avoir cette ambition de décarbonation du territoire, il faut bien s'attaquer effectivement à toutes les problématiques sur tous les modes. On a vu la manière, par exemple, peser aussi la route, combien les transports routiers pesaient en matière de carbonation du territoire, et que si on n'accompagne pas, comme ça a été présenté dans les différents défis, la décarbonation de la route, on loupera évidemment la décarbonation de l'ensemble du territoire. Donc il ne faut opposer aucun mode, et il faut que la région sera aux côtés de tous les modes, et on a tendance à dire que la région doit accompagner du piéton à l'avion tous les modes de transport dans cette logique de décarbonation et d'avenir pour notre territoire. Vous le voyez vraiment sur ce petit schéma qui est présenté, on est bien effectivement avec les enjeux de la décarbonation des mobilités et des réponses à tous les besoins dans tous les territoires, puisque les spécificités de notre région, c'est à la fois d'avoir des métropoles extrêmement importantes et qui pèsent, et évidemment la première d'entre elles, Lyon, mais aussi des territoires très ruraux, et que, évidemment, la manière dont on va aborder et accompagner ces mutations en matière de mobilité sont à appréhender de manière différente entre Lyon et les territoires les plus ruraux et nos petits villages, entre autres dans nos zones de montagne. Donc, il ne faut pas opposer, mais bien faire travailler et réfléchir à tous ces niveaux-là. Proposer un choc d'offres pour les transports collectifs et puis un plan de décarbonation de la route, puisque on l'a évoqué et tous les chiffres le montrent, si on n'accompagne pas cette décarbonation de la route à l'horizon 2050, on loupera les enjeux de décarbonation. C'est pour ça, et c'est la slide suivante, qu'en matière de mobilité positive du quotidien, ce qui a été présenté, si on passe à la slide suivante, voilà, c'est bien de créer un choc d'offres que dans le cœur de nos compétences au niveau régional, en matière de train et en matière de cars qui structurent aussi nos lignes TER en quart région. Sur les TER, nous souhaitons passer de 220 000 voyageurs à 300 000 voyageurs à l'horizon de 2035, ce qui est une progression par jour, bien sûr, de 40%, ce qui est une progression inégalée dans les années à venir. Pour rappel, sur la période 2013-2022, sur une séquence équivalente, on était à une progression de plus 10%. On voit l'effort industriel qu'il va nous falloir avec l'opérateur, les opérateurs fournir pour effectivement accélérer par 4, d'une certaine manière, la progression en pourcentage par rapport à ce qui s'est vécu, si on a vécu dans la séquence et dans la décennie précédente. C'est pour cela et pour atteindre cet objectif-là, c'est une volonté d'augmenter de 30% de train kilomètres l'offre proposée sur le territoire, d'augmenter en net, bien sûr, de 60 000 places l'offre de train. Donc, en conséquence, augmenter le nombre de trains en circulation et acheter du matériel. Ce qui fait que nous avons présenté un programme en termes d'acquisition de matériel, un programme de 3 milliards d'euros d'investissement pour l'acquisition effectivement de 130 rames, mais aussi pour la modernisation et la décarbonation des rames actuelles, puisqu'il faut à la fois développer l'offre et à la fois travailler sur le stock de matériel existant. Donc, ces 3 milliards sont effectivement au service de ces politiques-là. Pour mémoire et pour bien mesurer aussi la volonté de la région d'accélérer cet impact, si on regarde sur les années précédentes, sur la décennie, en tout cas sur les périodes en lissage annuel entre 2010 et 2015, on investissait la région Auvergne et la région Rhône-Alpes cumulée investissait en gros 72 millions d'euros sur le matériel. Dans la séquence 2016-2023, on investissait 132 millions d'euros par an sur le matériel et sur la séquence qui s'ouvre 2024-2025, on prévoit d'investir 259 millions d'euros par an sur le matériel. Donc, on voit bien là l'accélération extrêmement forte de la région pour atteindre ses objectifs d'augmentation du nombre de trains en circulation dans notre région à l'horizon de 2035 pour atteindre nos objectifs de décarbonation. Et puis, évidemment, ce seront des investissements dans la même période à hauteur de 2,7 milliards d'euros dans les infrastructures de transport collectif et évidemment la participation en direction des SNCF Réseau pour aider SNCF Réseau à maintenir son réseau dans un réseau de qualité, mais aussi à accompagner des projets plus structurants. Et en matière de car, puisqu'il n'y a pas une desserte routière, ferroviaire pardon, sur l'ensemble des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a aussi une volonté de doubler l'offre pour aller au plus près de nos concitoyens et en particulier dans les territoires ruraux. Ça a été évoqué tout à l'heure, si on passe à la slide suivante. Pour atteindre ces objectifs, on va aussi structurer notre offre autour de ces politiques que l'on appelle les politiques de serre. En un mot, les RER, c'était des politiques très concentrées sur le ferroviaire, évidemment. Les SERM, ce sont des politiques d'intermodalité, c'est-à-dire qu'on est évidemment sur le ferroviaire qui fixe la colonne vertébrale des stratégies de mobilité, mais avec toutes les autres mobilités qui sont structurées autour de cette colonne vertébrale. L'idée étant, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de pouvoir labelliser, en tout cas de travailler dans des logiques SERM, autour de 6 SERM dans notre région, le SERM évidemment de Lyon, le SERM de Saint-Étienne, celui de Genève-Annemasse qui est déjà l'un des plus avancés avec ce qu'on appelle le Léman Express, le SERM de Grenoble, celui de Clermont-Ferrand et celui de Chambéry. Quand on regarde ces 6 SERM, ça représente environ 6 millions d'habitants sur notre région qui en compte 8. Les autres habitants, les 2 millions d'autres habitants sont plutôt dans des territoires, vous le voyez bien, éloignés de nos grandes métropoles et donc dans des territoires un peu plus, voire très ruraux. D'où l'importance aussi d'accompagner la mutation des mobilités dans les territoires ruraux et d'où l'importance aussi, et c'est les négociations actuelles du CPER, de bien maintenir, si on reste sur le ferroviaire, de bien maintenir le réseau des petites lignes existantes sur notre territoire et d'accompagner toutes les autres mobilités au niveau des AO locales. Donc, la politique SERM va structurer aussi pour 6 millions d'habitants cette politique à l'horizon de 2035. La slide suivante, dans notre cap qui a été évidemment fixé par cette feuille de route, c'est aussi de simplifier l'usage en particulier des TER pour accompagner ce choc d'offres, c'est la simplification aussi de l'usage et de l'articulation entre le vélo et le train. De plus en plus de monde participent et ont décidé d'utiliser des mobilités actives, en particulier par le vélo pour aller jusqu'à la gare. La difficulté, c'est que si on passe effectivement de 220 000 à 300 000 et qu'on a la même progression, même exponentielle, avec l'usage des vélos, on va en fait saturer le système au niveau des trains. Donc, il nous faut inventer une autre forme d'usage vélo-train. D'où le fait qu'on veut faire exploser d'une certaine manière le nombre de places de stationnement sécurisées en gare pour trouver une autre articulation. On veut aussi simplifier fortement les parcours des usagers avec le dispositif Oura et la carte qui doit pouvoir être utilisée demain dans tous les systèmes de réseaux de transport, que ce soit les réseaux urbains, les réseaux interurbains, les réseaux TER, pour que l'usager ne s'interroge plus sur la manière dont il peut utiliser et payer demain les usages en train. Et puis, un mot quand même pour dire que tout ça doit s'accompagner d'une politique autour des personnes à mobilité réduite pour que les mobilités ne soient pas évidemment proposées qu'aux personnes ayant toutes leurs capacités physiques. Enfin, un dernier mot sur la route. J'évoquais tout à l'heure la route. Vous savez que c'est la slide suivante. Dans le cadre des. Non, c'est la bien cette slide, pardon, excusez-moi. Vous le savez effectivement, dans le cadre de la loi 3DS, la région va monter en puissance aussi en expérimentation sur les sujets de la route. Donc, c'est des sujets sur lesquels on va s'impliquer. Au-delà d'être AO et d'organiser aussi de nombreuses mobilités sur la route, avec entre autres les cars. Donc, c'est tous les sujets autour, évidemment, mais les chiffres ont été rappelés tout à l'heure, autour de la route et comment on décarbone d'une certaine manière la route, parce que si, je le redis une troisième fois, mais si on loupe ce virage de la décarbonation de la route, on n'atteindra pas nos objectifs de décarbonation à l'horizon 2050 sur le territoire national. Donc il faut bien accompagner ce mouvement, nous aussi pour accompagner un peu aussi les réflexions qui sont présentées aujourd'hui dans le cadre des COP et un peu partout, la réflexion que l'on va essayer d'amplifier dans les mois à venir avec les assises de la mobilité routière décarbonée, que l'on souhaite aussi mettre en œuvre dans les prochains mois pour réfléchir avec l'ensemble des acteurs sur la manière dont la route décarbonée peut devenir une réalité sur notre territoire régional. Voilà en quelques mots, évidemment, puisque ça pourrait être beaucoup plus long, la politique régionale en matière de mobilité pour répondre à un certain nombre des défis et à quelques éléments des défis qui ont été présentés tout à l'heure pour atteindre nos objectifs de décarbonation.
Effectivement, quelques questions de la part des participants. Une première question, hein, sur le fameux plan vélo et transport en commun que vous évoquiez, effectivement, notamment sur les places de stationnement vélo dans les gares. Mais une question aussi de savoir s'il était prévu d'avoir plus de places de vélo dans les TER, parce qu'effectivement, sur l'enjeu du dernier kilomètre, on prend son vélo, on prend le TER et puis on reprend son vélo pour aller jusqu'au bout de son trajet. Voilà, quels sont les objectifs et les mesures qui sont mises en place sur ce point?
C'est un vrai questionnement. En un mot, tous les pays qui sont montés en forte puissance sur l'usage du TER, enfin l'usage des trains et l'usage des vélos, ont plutôt une autre politique qui est le vélo pour les premiers kilomètres et on laisse son vélo en gare, on prend le train et un vélo pour les derniers kilomètres. Et donc, comment on gère l'articulation entre tout ça, d'où l'augmentation des places sécurisées. Parce que si on passe effectivement et qu'on a une très forte progression du nombre d'usagers en présentiel dans les trains avec les vélos, et c'est ce qu'on a déjà sur un certain nombre de lignes aujourd'hui, même le fait d'acheter 130 rames ne suffira pas, et surtout ça pose de gros problèmes actuellement de sécurité et même d'usage pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'entre autres, les personnes en fauteuil ou en mobilité réduite ne peuvent plus rentrer dans les trains. Donc il faut qu'on invente une autre forme d'articulation, comme dans tous les pays qui sont des pays à très fort usage du vélo, pour articuler train-vélo de manière différente. Mais on ne pourra pas, ça c'est un leurre, faire rentrer tous les vélos et tous les usagers avec leurs vélos dans les trains. C'est impossible. Ou alors, il faut accepter l'idée qu'on ne sera pas à 300 000 à l'horizon 2035, mais bien moins, puisque de toute façon, on ne sera pas en capacité d'augmenter. Ou alors, il faut doubler le nombre de trains pour le même nombre d'usagers. Donc, ça sera une vraie, vraie difficulté. Donc, il faut qu'on articule et qu'on invente une autre articulation dans les
Une autre question, toujours sur la multimodalité. Les parcs relais sont déjà pleins. Donc, comment va-t-on faire pour absorber de nouveaux véhicules? Est-ce qu'il y a de nouveaux parcs relais qui sont prévus dans les prochaines années?
Alors ça, on est typiquement effectivement dans les logiques et dans les réflexions CERN. La logique des CERN, la réflexion des CERN qui devront se construire avec les territoires, parce que là, on n'est pas sur une compétence directe de la région, mais sur une compétence collective et en particulier une compétence des territoires sur les parkings relais. Et dans le cadre des CERN, on voit justement, dans le cadre d'une prospective à court, moyen et long terme, regarder comment on monte en puissance sur ces investissements majeurs, puisque c'est aussi des investissements très lourds, que ces parkings relais. Donc comment, dans le cadre des futurs CERN, on accompagne cette montée en puissance aussi avec les véhicules ou avec d'autres usages, si on va aussi plus loin dans les transports en commun, peut-être aussi avoir le réflexe de prendre un transport en commun plutôt que sa voiture pour aller jusqu'à la gare. Bref, on voit bien qu'il va falloir changer les habitudes, articuler différemment nos différents modes de transport. Et tout ça, c'est bien l'objet des études CERN qui vont avoir lieu dans les prochains mois.
Merci. Une autre question, toujours sur les logiques d'investissement. Est-ce qu'il y a de nouveaux investissements qui sont prévus sur le développement des infrastructures ferroviaires?
Alors, je le redis, côté région, la compétence est de faire rouler des trains, et c'est pour ça qu'on a multiplié considérablement, effectivement, le montant des investissements en passant à 5,7 milliards. En parallèle, effectivement, il y a les investissements directs de SNCF Réseau et les investissements de l'État sur l'ensemble des infrastructures. Oui, il va falloir des investissements majeurs dans les années à venir, que ce soit d'ailleurs pour le fret, pour le voyageur. C'est d'ailleurs pour ça que l'État et les collectivités, et entre autres en soutien la région, se lancent et avancent sur les accès au Lyon-Turin. Trop souvent, on a tendance d'ailleurs à dire que le Lyon-Turin ne va concerner que le fret, mais le Lyon-Turin va aussi désaturer le réseau ferroviaire pour permettre d'augmenter le nombre de trains pour les usagers. D'où la nécessité, évidemment, d'augmenter les infrastructures. Donc, globalement, je pense que les acteurs sont mobilisés. Je parlais des CERN tout à l'heure, c'est environ 10 milliards d'euros qu'il nous faudra investir d'ici 20 ou 30 ans sur notre territoire pour effectivement accompagner cette mutation. Donc, je pense que tous les acteurs sont mobilisés, que ce soit État, région et d'autres acteurs sur ces infrastructures. Et le Lyon-Turin, sur une partie de la région, répondra aussi à une partie de la désaturation pour développer les trains voyageurs.
Super. Et alors, on parlait des CERM, on nous pose la question de savoir à quand elles seront effectives.
Alors, l'effectivité, qu'est-ce qu'on appelle un CERM ou qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on appelle un RER? Un RER, c'est des trains avec un cadencement plus fort. C'est des trains avec une amplitude horaire plus importante, plutôt le matin, plus tard le soir, et des trains avec un emport plus important. On le voit, par exemple, aux heures de pointe, ne serait-ce que dans le cœur de Lyon, on a déjà une fréquence qui n'est pas encore suffisante, mais importante. Mais maintenant, c'est le cadencement qu'il faut travailler, c'est l'emport qu'il faut travailler, et c'est l'amplitude qu'il faut travailler. A contrario, sur d'autres points de notre région, au niveau, par exemple, de Clermont-Ferrand, on a un cadencement moins fort, etc. Donc, on ne part pas dans toutes les agglomérations et dans toutes les métropoles de notre région, sur le même point de départ. Donc, j'allais dire, d'une certaine manière, les CERN et les RER ont déjà commencé. La question, c'est comment on accélère le processus de l'augmentation de la fréquence, d'amplitude et de l'emport. Ça, les choses, on essaie de les travailler à plusieurs niveaux. Niveau court terme, c'est-à-dire 2028-2029, comment, à infrastructure constante, à matériel constant, on arrive à faire tourner beaucoup plus les trains et activer plus. Comment, à l'horizon 2035, en investissant sur les infrastructures, on arrive encore à franchir une autre marge, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des études qui sont en cours et qui seront présentées collectivement, État, les collectivités territoriales, les métropoles, etc., présenteront tout cela et le détail dans les prochains.
Alors, on reste sur la thématique ferroviaire. Est-ce qu'on a de la visibilité sur la réouverture des anciennes lignes ferroviaires?
Très sincèrement, il faut être honnête et franc là-dessus. Aujourd'hui, mais ça, l'État pourrait répondre mieux que moi, mais je veux bien assumer la réponse et ils rectifieront si je me trompe dans la réponse. Aujourd'hui, la priorité, c'est avant tout de ne pas fermer des lignes. Et le cap que l'on s'est fixé collectivement, c'est d'investir des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dans les années à venir pour ne pas fermer des lignes, puisqu'il y a un retard d'investissement considérable. La réouverture de lignes, c'est un cap qu'il faudra avoir à moyen et long terme. C'est un cap sur le court terme qui est aujourd'hui, au vu des moyens qui sont alloués par l'État, qui est illusoire et ce serait mentir de dire qu'on va pouvoir réouvrir les lignes. Déjà, le cap, c'est de ne pas enfermer et de maintenir correctement notre réseau. Et j'ajouterai quelque chose. Par contre, il ne faut pas qu'on avance sur le démantèlement des lignes existantes. Parce que si on veut réouvrir dans un moyen terme des lignes, et si on a démantelé des lignes de tous les côtés, là, par contre, on condamne le réseau et le réseau de proximité ferroviaire. Donc, ne pas démanteler, bien investir sur le réseau existant et dans un moyen terme, probablement, je le souhaite en tout cas, que l'on puisse réouvrir. Et dire qu'on va réouvrir les lignes sur le court terme, je parle sous contrôle des services de l'État, mais je pense que ce serait mentir.
Didier ou Eric, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole en complément sur ce sujet de réouverture des
Non,
lignes.
je souscris pleinement à la réponse de Monsieur le Vice-président, qui correspond absolument à notre position d'État, qui est effectivement de faire en sorte que les lignes existantes ne ferment pas, avant d'envisager, de réouvrir d'autres lignes.
Eric. Autre question sur les technologies aussi, de savoir où en est-on de l'hydrogène dans la région, sur le parc roulant.
Alors, sur le matériel ferroviaire en matière d'hydrogène, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des quelques régions en France qui va tester à l'horizon 2026 du matériel hydrogène, de même qu'on va tester d'ailleurs du train à batterie. À l'horizon 2026, pour le train hydrogène, on va recevoir quelques rames que l'on va expérimenter pour regarder toutes les problématiques, et entre autres entre Lyon et Clermont-Ferrand. On va d'ailleurs équiper un atelier de maintenance pour pouvoir entretenir ces trains à hydrogène. Donc l'expérimentation, en tout cas la région Auvergne fait partie, Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des quelques régions en France à expérimenter à la fois l'hydrogène et le train à batterie. On n'est que quatre régions en France à expérimenter vraiment les deux dispositifs en même temps. Donc l'expérimentation va être effective d'ici un an et demi, et après on attend le retour d'expérience pour savoir si on généralise ou pas.
Oui, alors on a eu beaucoup de questions effectivement sur la mise en place des nouvelles lignes ou l'ouverture d'anciennes lignes. Une question qui est liée aussi à la tarification. Y a-t-il des prévisions de diminuer les tarifs des trains régionaux pour inciter à les prendre une fois qu'ils sont là?
La tarification, il faudra de toute façon dans le cadre des SERM, je l'évoquais tout à l'heure sur le support, mais il faudra aussi qu'on s'interroge, puisque l'idée, c'est de créer un maximum à l'échelle des SERM de l'intermodalité, donc de favoriser le passage du bus au train, voire effectivement que tout ça soit complémentaire. Donc les SERM seront l'occasion aussi de se réinterroger sur les transports. Après, là aussi, moi je ne fais pas partie de ceux qui font croire aux Français qu'on va pouvoir faire ces transitions et investir ces milliards et milliards d'euros pour la transition écologique en disant que ça ne va rien coûter à personne. Si on diminue des recettes à cet endroit-là, déjà que l'État vient d'annoncer encore il y a quelques jours qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, je ne sais pas comment on va faire pour investir, et ne serait-ce que investir sur les 5 milliards d'euros, sur le matériel, les infrastructures, etc., pour développer le service. Donc, penser effectivement que tout cela est gratuit, que personne ne paye, c'est une erreur. Donc, à partir du moment où les collectivités mobilisent déjà beaucoup d'argent, je rappelle d'ailleurs que le billet de train, c'est aujourd'hui à peine 30% du coût réel du service, et je ne parle même pas du service en termes d'infrastructure, hein, je parle vraiment du service de faire tourner les trains. Si on voulait ajouter le coût infrastructure, on serait, à mon avis, une quinzaine de pourcents. Dire qu'on peut encore diminuer dans l'état actuel des finances publiques au niveau national, je ne suis ni ministre des Finances ni porte-parole du gouvernement, je pense que ce serait illusoire. Donc moi, je préfère effectivement qu'on maintienne certes, c'est important, mais des coûts de TER au niveau actuel, mais par contre, on a une ambition forte d'investissement. Et quand on aura des investissements et des montants un fonctionnement de nos TER corrects, peut-être qu'on pourra envisager de faire différemment. Je rappelle que pour ceux qui sont sur des transports du quotidien, c'est-à-dire trains qui est utilisé pour aller au travail, l'employeur prend normalement, si tout se passe bien, une bonne part de l'abonnement en charge. Donc, c'est aussi un moyen pour l'entreprise de participer et d'aider le salarié.
Dernière question, alors il y en a de nombreuses, hein, donc on n'hésitera pas à répondre dans le compte-rendu, mais peut-être une dernière question à évoquer à l'oral, qui est un enjeu de parcours usager. Effectivement, un des enjeux, hein, c'est d'avoir un outil unique pour l'usager, de manière à ce qu'il identifie, pardon, toutes les alternatives bas carbone, que ce soit le covoiturage, le train, le bus, le vélo. Est-ce qu'il est prévu justement de soutenir cet usager dans la gestion de ses parcours et dans l'identification des solutions qui peuvent s'offrir à lui.
J'évoquais tout à l'heure la notion de simplification de l'usage des transports. Donc, tout ce qui est mis en œuvre et les nouvelles applications qui sortiront dans les prochaines années, portées par la région en partenariat avec les territoires, etc., dans le cadre entre autres du dispositif OURA, vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que l'usager soit dans un dédale pour prendre des transports et pour traverser la région, traverser nos métropoles, traverser nos agglomérations. Mais effectivement, il faut qu'on lui simplifie au maximum cet usage-là. Et tous les outils qui sont en cours de préparation avec les territoires vont dans ce sens-là.
Merci beaucoup, Monsieur Aguilera. Je propose qu'on passe au témoignage suivant. Est-ce que Aurore Conté,
Oui.
nous entendez?
Aurore Conté. Oui.
Super. Eh bien, écoutez, je vous
Vous
laisse
m'entendez?
la main pour partager effectivement l'action de Laver Aura.
Tout à fait. Merci. Merci pour ce temps de parole. Compte, je travaille pour l'association AVER Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une pour le développement de la mobilité électrique. Notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes, donc nous avons des adhérents, c'est mainteneurs des bureaux d'études, enfin, installateurs-mainteneurs, et puis nous sommes mandatés par l'AVER France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le programme Advenir Formation, certificat d'économie d'énergie. On peut passer à la deuxième slide, s'il vous plaît. Ce programme-là s'adresse à plusieurs cibles, les professionnels de l'immobilier, les étudiants et puis les collectivités. Donc, au niveau collectivité, ce programme est vraiment fait pour vous. Durant des sessions qui durent 2 heures en visio ou en présentiel, nous abordons plusieurs chapitres. Premier chapitre, quels sont les objectifs et les bénéfices de la mobilité électrique? Le but, ça, c'est de vous donner des arguments, des éléments de langage pour ensuite bien pouvoir parler de mobilité électrique avec vos administrés. On va parler notamment de bruit, de qualité de l'air, de changement climatique et des chiffres. En deuxième partie, le contexte réglementaire français et européen est abordé. Le contexte européen bouge beaucoup en ce qui concerne la mobilité électrique, donc on fait un tour d'horizon de ce contexte réglementaire pour les collectivités. Ensuite, en troisième partie, on parle de la recharge. Alors, des types de prises, des types de bornes, des puissances, de quelle puissance, quelle borne installer en fonction de quel usage. On parle également schéma directeur, bien sûr. On donne aussi des notions de coûts, des notions de coûts d'installation de bornes de recharge, des coûts d'installation, des coûts d'exploitation, pour qu'ensuite vous puissiez mener vos projets à bien sur le territoire. Et puis, on termine par les aides et les subventions qui existent pour les collectivités. Donc, comme je vous disais, ce sont des sessions d'information visio en présentiel pour des groupes minimum de 7 personnes. Donc, c'est bien un programme C2E, c'est-à-dire que c'est sans coût pour les bénéficiaires, donc c'est gratuit. Lorsque vous allez recevoir les slides, je vous mettrai des liens pour vous inscrire à de prochaines sessions d'information. Voilà. Sur la slide suivante, je vous présente les autres cibles du programme Advenir Formation pour information. Donc, on s'adresse effectivement aux collectivités, mais également aux professionnels de l'immobilier. Donc, professionnels de l'immobilier, l'objectif, c'est d'expliquer comment installer des bornes de recharge en habitat collectif. Puisque pratiquement un Français sur deux habite en copropriété, plus de 80% des recharges se font à domicile la nuit. Donc, on voit qu'il y a un enjeu fort à accompagner cette installation de bornes de recharge en habitat collectif. Il y a plein de solutions aujourd'hui pour installer des bornes en copro. L'objectif de ces 2 heures d'information, c'est bien de présenter toutes les solutions de raccordement qui existent, toutes les solutions de financement et le programme de subvention pour qu'ensuite les copropriétés puissent mener leur projet en connaissant voilà, toutes les solutions qui existent. Et enfin, nous nous adressons aux étudiants du niveau CAP à Bac plus 3, des séries techniques ou commerce, pour des groupes minimum de 15 personnes. Donc, si vous avez des établissements scolaires intéressés sur vos territoires, n'hésitez pas à me mettre en relation avec eux. Pour les professionnels de l'immobilier, en tant que collectivité, dans le cadre de schéma directeur, je pense qu'il est important de ne pas négliger cette cible-là. Parce que voilà, même si les collectivités ne peuvent pas installer des bornes de recharge en copropriété, il y a peut-être un accompagnement que les collectivités peuvent faire, peut-être via les ALEC ou d'autres structures. Et donc, nous pouvons accompagner les structures qui vont accompagner l'immobilier. Donc, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet, à m'appeler, à m'envoyer un mail pour organiser des...
Recording in progress.
Allô?
Oui, effectivement. Donc, oui. Pas de coût pour oui. La collectivité.
Tout à fait, c'est gratuit. Ces sessions d'information sont gratuites.
OK. Et autre question hein, de savoir si ça concerne bien toutes les collectivités ou est-ce qu'il y a des restrictions en fonction de la taille des collectivités?
Aucune restriction. Ces sessions d'information s'adressent aussi bien aux territoires urbains que ruraux. Donc, aucune restriction.
Merci beaucoup. Alors, petite question de sondage. Et cette fois-ci, c'est nous qui vous sollicitons. Effectivement, on a évoqué les défis en lien avec la mobilité voyageurs. On voulait savoir si finalement vous vous sentez concerné par ces défis ou est-ce que les organisations que vous représentez finalement pourraient agir sur les différents défis qui vous ont été présentés. Donc voilà, vous avez une petite question de sondage qui apparaît à votre écran. Voilà, c'est pour prendre un petit peu le pouls, savoir si ces défis, a priori, on va pouvoir agir collectivement ensemble dessus. Et j'ai l'impression que c'est plutôt oui, puisque même si vous n'avez pas encore tous répondu, on a quand même presque 60%, 55% de personnes qui sont déjà fortement engagées sur cette thématique. Donc ça nous laisse optimistes sur la capacité à travailler autour de ces différents défis. Je propose qu'on passe maintenant à la thématique transport de marchandises. Avant ça, là encore, une petite question quiz. La première, quelle est la part modale du fret ferroviaire pour le transport de marchandises en France? D'abord. J'ai l'impression que c'est une réponse qui fait consensus. Donc, effectivement... On est bien sur 9% de part modale du fret ferroviaire en France. Et alors, la même question en Europe. Effectivement, un petit peu plus, puisqu'on est à 16% à l'échelle européenne. Antoine, je te laisse prendre le relais pour partager l'état des lieux sur la partie transport de marchandises.
Oui. Comme on a pu le voir, la France est en retard notamment sur la part modale du fret ferroviaire avec uniquement 9%, uniquement 9% donc de part modale et donc un transport de marchandises qui est dominé par le secteur routier avec 98% du transport de marchandises qui passe par le routier. Donc c'est important pour la décarbonation de ce secteur-là d'arriver à rattraper ce retard-là et donc à massifier les flux pour pouvoir développer le fret ferroviaire et également le fret fluvial. Ce qu'on peut constater, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle dispose quand même d'une position stratégique pour le transport de marchandises, puisqu'elle constitue une bonne connexion avec l'Italie et notamment donc le projet d'accès pour le Lyon-Turin permettra donc de décarboner le transport de marchandises sur cet axe-là d'échange entre la France et l'Italie. Mais c'est également une position stratégique pour le transit des flux nord-sud et notamment la connexion entre les ports de la Méditerranée et le nord de l'Europe. Donc c'est pour cela qu'en fait la Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région française en termes de volume et de tonnes kilomètres pour le transport routier de marchandises. Donc avec en 2021 32 milliards de tonnes kilomètres. Et donc c'est quand même un secteur qui a un impact très important dans la région et dont les efforts doivent être poussés. Ce qu'on peut constater, c'est que le parc de poids lourds et de véhicules utilitaires légers est encore à forte dominante de motorisation diesel et essence. Si la décarbonation côté poids lourds est plus compliquée, côté véhicule utilitaire léger, il existe des solutions pour permettre de décarboner ce parc de véhicules-là. Et donc, un effort est encore à faire de ce côté-ci pour pouvoir arriver à décarboner le transport de marchandises. Peut-être un point fort de la région qui est à développer et qui est à mettre en avant, c'est l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Donc avec un trafic en 2022 qui s'est élevé à 4,94 millions de tonnes. Toutefois, un trafic qui est en baisse, malgré des avantages certains. On peut citer par exemple en termes d'avantages des coûts compétitifs et un bénéfice, et surtout un bénéfice environnemental qui est certain, puisque un bateau ou un convoi poussé, ça équivaut à entre 100 à 200 poids lourds. Et donc le transport fluvial permet un gain en matière d'émissions de CO2 qui est équivalent donc à 73 grammes de CO2 par tonne kilomètre. C'est assez important. Par contre, il présente certains inconvénients qui est lié du coup au transport de marchandises massifiées qui est assez commun avec le fret ferroviaire et donc des ruptures de charges supplémentaires et des temps de parcours qui sont globalement plus longs. Mais ça, c'est très difficile d'être compétitif vis-à-vis de la route sur ce sujet-là. Sur l'axe MERS, donc les filières historiques transportées via le fleuve, donc c'est toute la filière du vrac avec notamment le BTP, l'agroalimentaire avec les céréales, les minéraux et les produits énergétiques. Mais il y a toute une démarche en cours pour arriver à faire émerger de nouvelles filières pour pouvoir développer le trafic sur cet axe. Donc notamment le conteneur, les colis lourds, les déchets et donc un effort à faire sur la logistique urbaine et les marchandises dangereuses. Donc les défis, après ce court état des lieux, les défis qui ont été identifiés pour le transport de marchandises, donc le premier, qui est donc optimiser et décarboner le transport de marchandises en massifiant le recours aux fret ferroviaires et fluviales pour réduire de 10% le transport routier de marchandises. Donc si on fait un peu le retour d'expérience de la réunion 1 du groupe de travail transport, c'était le défi qui est apparu le plus complexe à relever aux yeux des participants, de par sa une complexité assez importante. Donc en fait, ce qu'on peut faire, le constat qu'on peut faire au niveau national, c'est qu'on a une augmentation de la demande en fret de 10% entre 2015 et 2019, mais d'un même côté, une forte baisse du fret ferroviaire depuis 30 ans. Donc c'est deux tendances qui sont contradictoires et qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs de décarbonation. Donc l'enjeu majeur lié à ce défi-là, c'est de repenser toute la chaîne d'approvisionnement et la logistique pour pouvoir revenir à des flux massifiés et pouvoir avoir recours donc au fret ferroviaire et au fret fluvial. Et en fait, toute la chaîne d'approvisionnement et la logistique doivent être adaptées à des temps de transport qui seront logiquement plus longs et à des ruptures de charge plus importantes. Et donc, il y a aussi de ce côté-là peut-être un changement de paradigme vis-à-vis des consommateurs, notamment une tendance à privilégier les circuits courts, donc pour limiter un peu les derniers kilomètres qui sont généralement faits grâce à des moyens carbonés. Et également une baisse de la consommation. Donc là, c'est toujours un enjeu lié au levier de la sobriété. Et surtout, peut-être le plus important, une sensibilisation et un retour à des délais de livraison qui sont plus longs, qui donc seront liés à l'utilisation du transport massifié et donc au ferroviaire, au fluvial, qui est, comme je disais précédemment, un des principaux points négatifs quand on le met en concurrence avec le transport routier. Maintenant, donc là, les quelques exemples d'actions emblématiques qui ont émergé lors du GT numéro 1. Donc un développement de l'axe MERS, donc avec un objectif de doublement de la part modale fluviale. Donc on passerait de 2% à 4% à l'échelle régionale. Et également donc un développement du fret ferroviaire. Et donc un développement des infrastructures et notamment une réhabilitation des installations terminales embranchées privées, qui sont les installations qui permettent de relier les entreprises au réseau ferroviaire. Si on passe au deuxième défi de la thématique transport de marchandises, donc là c'est le défi un peu le pendant de l'électrification du transport de voyageurs, le défi qui repose un peu sur les choix technologiques et l'efficacité énergétique. Et donc développer les motorisations et carburants décarbonés et renforcer l'efficacité des véhicules en optimisant le couple technologie-usage. Et donc là, l'idée, c'est d'insister sur le fait que l'électrification ne sera pas forcément une solution, notamment à court terme, et qu'il faut plutôt tendre vers un mix énergétique adapté entre un couplage entre l'usage et la technologie, notamment l'utilisation des biocarburants pour les transports de longue distance, qui apparaît comme une solution transitoire et une solution un peu optimale pour l'instant pour pouvoir décarboner ce transport routier de marchandises. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces ressources en biocarburant sont des ressources en tension liées avec la compétition entre les usages, notamment agricoles, et également la stratégie nationale sur la décarbonation de l'aérien. Et donc, il faudra quand même privilégier l'électrique, notamment sur les courtes distances et sur la logistique urbaine, voire même un développement de la cyclo-logistique pour permettre de décarboner ce dernier kilomètre. Un enjeu très important de ce défi-là, c'est le coût des technologies qui reste très prohibitif pour un secteur d'activité où le réseau d'acteurs il est essentiellement constitué d'un nombre important de PME et qui ne peut pas se permettre de supporter des coûts d'achat et d'entrée dans ces technologies-là aussi important. Et donc quelques actions emblématiques qui ont émergé lors de la réunion 1 du GT. Soutenir l'acquisition de véhicules à motorisation alternative, sensibiliser à l'éco-conduite pour améliorer l'efficacité énergétique des véhicules et des initiatives pour soutenir des expérimentations sur le rétrofit. Notamment donc sur le transport routier, le transport fluvial ou encore le ferroviaire sur les lignes qui ne pourraient pas être électrifiées et quelques actions pour décarboner la flotte de barges fluviales et améliorer encore l'impact positif du recours au fret fluvial par rapport au transport routier.
Petite question des participants concernant la ligne historique de la Maurienne. A-t-on une visibilité ou en tout cas quelles sont les perspectives d'augmentation à court terme du trafic sur cette ligne? A priori, pas d'informations à date. Je comprends du coup qu'on va effectivement rechercher l'information d'ici à notre prochain compte rendu.
Moi, je veux bien. Je veux bien intervenir. Jean-Christian Vialel, bonsoir.
Vous tombez à pic.
Pardon?
Non, je dis, vous tombez à pic.
On va pique. Merci. Donc Jean-Christian Vialel, je suis responsable d'une fédération professionnelle qui s'appelle TLF Transport Logistique de France et qui représente les principaux acteurs hein, du transport. Que ce soit des groupes et des PME de messagerie, que ce soit la chaîne du froid, les derniers kilomètres, les logisticiens, mais également des acteurs du report modal. Et ma présidente de TLF Auvergne est Céline Combronde, qui est, je pense, un exemple en tous les cas de diversification pour le transport routier, puisqu'ils se sont lancés dans le transport ferroviaire et puis également maintenant dans le transport fluvial. Alors, pour répondre à cette question-là, puisque vous me permettez tout à l'heure, je veux bien commenter en 5 minutes les slides là, que vous venez de présenter. Justement, la liaison là, France-Italie, bah, pour l'instant, elle est fermée. Donc, tout est dévié par la route, hein. On n'a pas d'autre solution et on a un espoir. J'ai rencontré la responsable de SNCF Réseau. Donc, on espère à l'automne pouvoir réouvrir en tous les cas la ligne ferroviaire. Le problème qui se présente à nous, c'est qu'une fois que les opérateurs, les organisateurs en tous les cas de transport ont trouvé d'autres solutions, c'est un petit peu difficile des fois de revenir en arrière et de reprendre les schémas qui ont existé. On a eu le cas via le port de Marseille, par exemple, à la suite de grèves répétitives des dockers sur des trafics Marseille-Marseille-Suisse qui ont complètement disparu et qui ont été transférés et qui restent aujourd'hui au port d'Anvers. Voilà. Donc voilà pour répondre en tous les cas à cette question. Oui, bah, c'est moi là. Effectivement. Merci. Mais je laisse les autres parler. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande la parole. Après, je pourrais, si vous le permettez, vous faire deux, trois commentaires sur ce qui se passe dans notre secteur d'activité.
Alors, il y avait.
Bien.
Je vous en prie,
Merci
Eric.
beaucoup. Éric Talis, là. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais pas compris la question peut-être en premier abord, mais la réponse de l'intervenant a permis de la comprendre et de confirmer qu'effectivement, selon les dernières informations dont on dispose, la réouverture est plutôt pour l'automne 2024, compte tenu de l'ensemble des travaux de sécurisation qui sont amenés à la fois par SNCF Réseau et par le conseil départemental qui travaille sur la stabilité de l'ensemble du flanc, dont une partie s'est éboulée récemment, il y a quelques mois, et qui a entraîné la coupure temporaire de la circulation des trains sur cette ligne. Voilà.
Merci Eric. Une autre question qui était parvenue, c'était de savoir quelles aides sont prévues pour décarboner le dernier kilomètre fret. Transport de marchandises téléportées, aide à la livraison par vélo cargo. Voilà.
Alors, je vais faire une réponse pas approximative. Donc, on a deux effets, hein. On a d'abord les aides effectivement que peuvent apporter les services de l'État, notamment par l'ADEME. On a malheureusement des coupes budgétaires. Je pense que tout le monde est au courant. Donc, elles sont là et on ne sait pas bien si elles seront pérennes. Le deuxième niveau, c'est ce que l'on peut effectivement obtenir soit dans les villes comme Grenoble ou comme Lyon, parce qu'elles imposent, ou même Saint-Étienne à un moment donné, parce qu'elles imposent des restrictions de circulation, et donc uniquement des restrictions d'accès à des véhicules à énergie thermique. On a plusieurs niveaux. Maintenant, elles sont malheureusement un peu insuffisantes parce que quand on prend un tracteur routier, en moyenne, le prix d'achat aujourd'hui est entre 120 et 150 000 euros. Un camion électrique demain, ça vaut 600 000 euros. Alors, on a effectivement, il y a 5 ou 6 ans, entamé une large partie de décarbonation sur les véhicules routiers, hein, et notamment par le gaz, GNV, donc GNV, GNC et GNL en liquéfié. La crise, on ne savait pas bien où on allait, donc on n'avait pas de visibilité, mais GRDF faisait beaucoup en installant les. On n'avait pas de visibilité sur la revente des matériels d'occasion, hein, tout simplement, les valeurs résiduelles. Et donc, on a suivi cette tendance parce qu'il faut la suivre. Malheureusement, la crise de l'Ukraine a donné tort à pas mal de transporteurs qui se sont retrouvés un peu en difficulté par rapport à ça, parce que évidemment, le gaz était beaucoup plus cher que le gasoil. Et puis après, on a eu des jeunes arrivés. Alors, le bio-GNV, évidemment, ça serait l'idéal, hein, de pouvoir évidemment recycler nos déchets et de recréer, en tous les cas, du méthane à partir de nos propres déchets. Bon, là, encore une fois, ce sont des politiques soit régionales, soit de métropole. On est partant. Et puis, la dernière, en tous les cas, transition que l'on a aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on appelle le B100, c'est-à-dire du carburant à base de résidus et de déchets de colza. Mais là, encore une fois, on se heurte au service de l'État qui, sur des véhicules à biocarburation diesel et B100, ne nous donne pas les critères, enfin les vignettes de critères suffisantes pour pénétrer dans les centres-villes. Donc, il faut de la. Et puis, on ne trouve pas ce biocarburant non plus dans les stations, donc il faut avoir des pompes. Donc les transporteurs font aujourd'hui beaucoup d'efforts, ils se tournent vers l'hydrogène, ils se sont tournés vers le gaz, demain ils se retourneront certainement vers l'électrique. On est en pleine transition, hein. On a une pression aujourd'hui de l'Europe avec des échéances à tenir que l'on connaît, hein. Et certains groupes, encore une fois, ont déjà engagé cette transition énergétique. Maintenant, chaque constructeur de véhicules a également sa Renault Trucks, par exemple, est parti sur l'électrique. D'autres sont partis sur le gaz. Donc, de toute façon, la solution ne viendra pas que sur une seule énergie, un seul type et une seule origine d'énergie. On en aura effectivement besoin de plusieurs. On le sait bien. Voilà, dans le dernier kilomètre, on a trois villes qui nous posent aujourd'hui problème dans le transport. C'est Paris. C'est Grenoble et c'est Lyon. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre dans ce que j'ai donné parce qu'elles vont, les métropoles vont beaucoup plus vite que ce que l'on peut faire dans la transition énergétique. Voilà. Bon, moi je l'annonce comme ça. Je trouve effectivement que l'intérêt que vous portez au transport de marchandises, ben, je vous en remercie. C'est vrai qu'on est souvent plus axé sur le voyageur et l'électorat que sur les marchandises. On a un vrai souci de logistique. On l'a vu pendant le Covid, hein, donc les camions, ça sert quand même à quelque chose. Le fait que l'on ait une telle répartition sur les modes de transport vient du fait que les modes de transport, en fin de compte, ont accès à leur propre réseau. Et le camion, aujourd'hui, a accès à 85-86% de son réseau. Donc, vous pouvez mettre, avec un camion, vous pouvez quasiment aller partout. Ce qui n'est pas le cas du ferroviaire et ce qui n'est pas le cas du fluvial, hein. Il faut des fleuves à grand gabarit. On sait ce que c'est que la massification. Le dernier débat que l'on a eu entre le ferroviaire, il n'y a pas très longtemps, lorsque l'Europe a validé la mise sur route de ce que l'on appelle les méga camions. Alors évidemment, ce sont des camions qui font 25 mètres, 25 mètres 50, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le transport, c'est que vous avez beaucoup d'opérateurs comme Amazon, comme La Poste, comme Geodis, qui ont beaucoup de volume de petits colis parce que le e-commerce se développe et qui, la nuit, organisent des connexions entre interagences. Alors évidemment, ces camions ne sont pas allés, on ne va pas les retrouver place de Jaude à Clermont-Ferrand. On va les retrouver entre deux points. Et comme on a une pénurie de personnel, lorsqu'on a deux camions sur la route de cette dimension-là, Les Hollandais l'utilisent déjà, hein, c'est déjà autorisé. Vous enlevez un camion de la route. Donc, un camion en moins de la route, bah, ça fait moins de consommation de carburant et donc, du coup, moins de pollution. Et nous, on a un problème pour recruter des conducteurs routiers. Donc, évidemment, on est plutôt favorable. Le train a ce lobbying en disant il faut mettre les camions il faut mettre les camions sur le train. Il y a de bonnes initiatives en ferroviaire, notamment pour les matières dangereuses. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui ce que fait, on va reciter le local de l'État pour les transports Combrondes. Il y a des trains, effectivement, dédiés entre Le Havre, Clermont-Ferrand et Marseille, et puis on passe à Vierzon, etc. Il y a des très bonnes choses qui sont faites. Il y a l'autoroute ferroviaire entre la frontière espagnole, le Boulou et le Luxembourg, qui est une bonne idée parce qu'il y a de la fréquence. Et donc les camions peuvent monter sur les trains, mais après, il y a des lacunes sur le réseau. Et on le sait, ça fait 50 ans que la France, côté voyageurs et côté marchandises, n'a pas investi et a laissé effectivement un réseau ferroviaire un petit peu dans un mauvais état. Donc, bon, ça plus les mouvements sociaux font qu'à un moment donné, ces axes sont un petit peu difficiles. Et puis, on a eu un monopole jusqu'en 2008, qui n'est plus aujourd'hui le cas de la SNCF. Voilà, donc tout ceci explique, si vous voulez, que le ferroviaire n'est pas forcément au rendez-vous malgré toute la bonne volonté, malgré effectivement un mode de transport massifiant. Qui ne roule que la nuit, je le rappelle, qui ne fait que 750 mètres alors que les Allemands organisent des trains de 1 km de long. Voilà, donc avec ces restrictions, la SNCF a abandonné à un moment donné le transport de wagons isolés. Bon, tout ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le développement espéré. Vous avez cité le CCIL, alors on en fait partie en tant qu'effectivement expert, et donc on le suit. En très haut lieu, Emmanuel Macron a effectivement et souhaite, c'est piloté par notre préfète de région, Fabienne Bussiaux. Donc c'est une très très bonne idée évidemment de faciliter le report modal. On a le même problème entre Le Havre et Paris, hein. Donc, les conteneurs vont trop sur le transport routier. Ils ont passé 3 à 4 semaines sur la mer, donc ils sont pas 2 jours près. Et c'est vrai que le fluvial est en perte de vitesse. Là aussi, les conclusions qui ont été faites des groupes de travail tendent effectivement à donner des pistes d'amélioration pour structurer une gouvernance, pour améliorer évidemment les ports le long de cet axe-là. Et puis améliorer la fréquence. Et ça l'a toujours été, le fluvial et le ferroviaire ont toujours été des modes subventionnés, hein, par rapport au transport routier, subventionnés par les pouvoirs publics. Et donc là aussi, bah, il faut redonner un coup de pouce parce qu'ils sont en concurrence directe avec le transport routier. Voilà. Donc on est tout à fait conscient de ces choses-là. On est dans la même optique, hein. On aimerait effectivement avoir demain un transport décarboné. Voilà, on n'a pas.
Jean-Christian, peut-être une question parce que vous parlez justement
Pardon, pardon.
des aides. Peut-être une question qui venait sur les aides disponibles pour aider les transporteurs à réussir leur transition et notamment effectivement sur le financement des véhicules qui sont parfois très chers.
Ouais.
Voilà.
On a, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un mécanisme et un système d'aide. Au niveau national par l'ADEME, et puis certaines villes comme Grenoble et Lyon, à un moment donné, ont donné des subventions, enfin pour effectivement des véhicules électriques ou des véhicules gaz. Mais encore une fois, c'est des subventions qui ne couvrent pas la différence, hein, de prix entre le thermique et les nouvelles énergies. Hein. Voilà. Mais ça existe, oui, on pousse dans ce sens-là.
Peut-être aussi plus globalement, une question pour Antoine. Comment est-ce qu'on peut maîtriser la demande de transport en marchandises? Est-ce qu'il est prévu d'agir sur ce levier?
Alors, nous, si vous voulez, ça nous fait pas plaisir d'abord de sortir d'un supermarché et d'avoir à livrer les courses de monsieur et madame. Ça nous fait pas plaisir de livrer les colis Amazon un dimanche à 22 h alors que monsieur ou madame les ont commandés un samedi soir dans leur fauteuil et qui sont contents de l'avoir le dimanche dans la boîte aux lettres. Aujourd'hui, l'accélération, en tous les cas, des nouveaux réseaux de distribution, des nouveaux modes de vie, notamment sur le dernier kilomètre, ont effectivement cette mauvaise incidence. Alors, comment? Bah, tout le monde y travaille et tout le monde ne doit pas y travailler, si vous voulez, enfin, ça, c'est ce que l'on pense et c'est ce que l'on défend dans la pénalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas sanctionner, on ne doit pas sanctionner le transport, on doit l'aider avec des aménagements, évidemment, d'infrastructures, ce qu'a commencé à faire Amazon et d'autres. Il y a des réseaux aujourd'hui dans les magasins qui permettent de massifier, il y a des consignes que l'on essaye de mettre sur les lieux de passage. Des salariés, il y en a même dans les entreprises importantes. Je ne sais pas s'il y en a chez Michelin, mais je suis certainement. Il y a une conciergerie qui fait qu'à un moment donné, on peut, au lieu de livrer 20 particuliers, on va en livrer qu'un point. Donc oui, il y a des bonnes initiatives et des bonnes idées et des bonnes volontés pour effectivement appréhender ce développement et arriver à massifier. Les gens pensent, pour finir là-dessus. Les gens pensent que le camion arrive avec une seule livraison en centre-ville. Les camions, il y a très peu de marge financière et de résultats sur ces modes de transport. Donc, les transporteurs font très attention déjà de massifier à l'extérieur des villes. Et vous le voyez à Clermont-Ferrand, vous avez des ex-GEFCO, vous avez des Seva, vous avez des Geodis, vous avez des STEF qui arrivent et qui ont des tournées de livraison. Donc, ils ont déjà fait ce boulot de massification. Entre villes et avant de rentrer dans une ville. Voilà, donc après, il faut. Vous voyez, Lyon est un très très mauvais exemple, mais il faut qu'on en parle quand même. Mais aujourd'hui, on a des pistes cyclables où, quand on a poussé la cyclo-logistique, la livraison de produits et de palettes en vélo, pour le modèle économique, bon, pas un problème si demain il faut payer la livraison. Mais regardez, Amazon ne fait pas payer sa livraison. Hein, donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Mais bon, les pistes cyclables ne sont pas assez larges. Voilà. Et ça devient dangereux parce qu'on n'a pas la culture, on n'a pas la discipline que peuvent avoir des pays nordiques comme les Hollandais ou les Scandinaves. Nous, sur les vélos, on est plutôt indisciplinés. Voilà. Donc. Il y a un vrai questionnement sur le devenir de ces derniers kilomètres. On y travaille.
Merci Jean-Christophe. Peut-être quelques compléments côté de Réal, Antoine, sur la demande de transport en marchandises.
Jean-Christophe a fait une réponse plutôt très complète. Peut-être un point sur lequel on peut insister, notamment le rôle des collectivités dans ce. Sur cette thématique-là, c'est notamment de favoriser la mobilisation du foncier logistique à proximité des centres de consommation, donc ce qui permet d'optimiser les distances et de réduire notamment les distances de livraison. Donc en fait, c'est pas tellement jouer. On peut jouer sur la demande, mais on peut également maîtriser la distance et la longueur des flux. Un point sur lequel on peut revenir aussi, c'est la stratégie de réindustrialisation de la France. Qui va en soi impliquer un impact du secteur des transports potentiellement plus important pour la région, mais au global, la distance parcourue par marchandise sera forcément réduite, et donc on limitera l'impact du transport de marchandises au niveau global, donc sera un effet positif sur la lutte contre le changement climatique. Donc l'idée, c'est plutôt de maîtriser les flux. Plutôt que de viser à les réduire.
Autre question, de savoir s'il y a un observatoire du fret qui est en place ou qui sera mis en place.
Alors, l'Adréal pourrait répondre, puisque elle lance effectivement un observatoire économique sur le sujet. Donc, je les laisserai répondre à ce sujet-là. Nous, de notre côté, on a aussi, on relève évidemment. On a ce qu'on appelle l'OPTL, donc l'Observatoire de prospective du transport et de la logistique, qui nous permet d'avoir une visibilité sur les entreprises, sur leur localisation, sur les salariés, les typologies, les salaires, etc. Sur les mouvements de fret, c'est un peu plus compliqué, mais je prends 30 secondes, j'ai été agréablement surpris lorsque je suis venu à à la dernière réunion là, de concertation à la métropole de Clermont-Ferrand sur effectivement l'investissement et le temps qu'ils ont pris pour essayer de recenser les flux de marchandises à l'intérieur de la métropole. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait et c'est vrai qu'il faut commencer par là. Il faut commencer évidemment à s'intéresser à cette volumétrie. Donc, alors, je passe la main à Adriel parce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de la région.
À Antoine.
Oui.
Oui, effectivement, sur l'observatoire du fret, c'est une démarche qui est en cours. L'idée, c'est de créer un observatoire en partenariat avec le secteur public et privé. Et on a également plusieurs études lancées sur les métropoles pour optimiser la logistique urbaine. Et également, je peux faire une petite annonce, un petit peu de publicité. On a une conférence de la logistique qui va être organisée prochainement, donc sur ce terme-là oui, également.
Antoine.
Toutes mes excuses parce qu'il y a marqué pour Antoine la question. Veuillez m'excuser.
Alors, effectivement, on a eu un échange de questions-réponses. Je rappelle que toutes les questions qui sont posées dans le chat seront traitées et on y répondra dans le compte-rendu. Petite question maintenant pour vous. Effectivement, on a parlé des défis en lien avec le transport de marchandises. Là encore, on est curieux de savoir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces défis. Est-ce que vous êtes déjà impliqué? Est-ce que vous avez envie de vous impliquer? Ou est-ce que malheureusement, c'est des thématiques qui sont difficiles à aborder pour vous? Je vous laisse un petit peu de temps pour voter. On a 40% effectivement des participants qui sont déjà engagés ou qui prévoient de renforcer les actions sur ces défis-là. Donc là aussi, on sera curieux, hein, d'ailleurs, on vous en parlera à la fin de cette conférence, de pouvoir avoir plus de visibilité sur les actions qui sont engagées par les organisations sur ces thématiques. Donc voilà, on vous proposera un petit formulaire de collecte des actions qui sont mises en place, mais on y reviendra tout à l'heure. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Peut-être qu'on peut effectivement échanger autour des prochaines étapes. Et je vais repasser la main à Eric pour vous donner cette visibilité.
Oui, merci beaucoup. Les prochaines étapes, aujourd'hui, nous sommes le 23, donc 02 au mois de mai, nous partagerons lors d'une troisième réunion, travaillerons sur la feuille de route du volet transport pour finaliser les fiches actions. Objectifs, moyens, besoins et partage des responsabilités. Une troisième réunion, une quatrième, pardon, réunion visera à partager largement et à bien comprendre et s'approprier les défis et les actions pour consolider la feuille de route qui aura été proposée. Voilà un petit peu les éléments à venir pour notre groupe de travail sur le transport. Et puis le reste à la slide suivante. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà, questionnaire sur le recueil des contributions à la feuille de route, donc qui va vous être transmis de façon à proposer vos contributions concrètes sur les secteurs et les défis, donc sur le secteur des transports avec les défis que vous choisissez, en veillant à être le plus précis possible sur les actions et les acteurs que vous voulez faire participer à ces actions. Et puis, le questionnaire sera envoyé à la suite donc de notre journée, de notre groupe de travail.
Question là aussi des participants qui nous demandent s'il est possible de participer aux autres groupes de travail sur les autres thématiques de la COP. Je laisse peut-être Didier répondre.
Alors, bien évidemment, hein, on a plusieurs groupes thématiques. Là, vous êtes sur celui qui est dédié au transport. Savoir qu'il y a aussi des réflexions qui sont conduites au niveau départemental. Donc, selon le niveau où vous agissez, vous pouvez aussi vous manifester auprès du niveau départemental. Les possibilités de contribution, on a déjà eu des contributions de collectifs. De collectivités, d'associations, d'industriels, de fédérations professionnelles. Là, tout ceci continue à être capitalisé. Et pour ce qui est de la participation aux autres thématiques, puisque vous êtes déjà acteur de la COP, représentant de votre organisme, de votre entreprise, de votre institution, faites-nous remonter vos souhaits de participer à d'autres thématiques de manière à ce qu'on puisse les prendre en compte pour les travaux des autres GT quand vous êtes intéressé par plusieurs de nos thématiques. Je rappelle que les autres GT travaillent sur la biodiversité et les ressources. Ça, c'est un groupe de travail. On a un autre groupe de travail qui porte sur l'énergie et les déchets. Et un groupe de travail qui porte sur le bâtiment, de même qu'il y a un groupe de travail animé par les collègues de la DREETS qui porte sur tout le volet industriel des travaux de notre COP.
Une autre question qui est sur l'articulation justement entre les débats départementaux et les groupes de travail régionaux. Comment est-ce que ça s'articule?
Alors, bien évidemment, hein, les préfets de département sont en charge d'animer les débats à l'échelle de leur territoire et des acteurs du territoire départemental. C'est pour ça qu'on parle de territorialisation de la planification écologique. Et donc, on est en échange permanent entre le niveau départemental et le niveau régional pour s'alimenter les uns les autres dans la construction de notre feuille de route et donc dans les travaux qui sont conduits. Voilà. Donc on est bien à une double échelle qui permet de mobiliser non seulement les acteurs régionaux, vous êtes pour la plupart ou les grands acteurs régionaux autour de cette visio ce soir, c'est le cas pour nos autres groupes de travaux thématiques et régionaux, et le niveau départemental permet d'aller avec les autres acteurs des territoires, les collectivités, les EPCI, les communes, bien évidemment en premier lieu, mais tous les acteurs de niveau départemental peuvent contribuer, s'associer d'une manière ou d'une autre aux travaux qui sont conduits.
Et puisqu'on est toujours dans cet enjeu de territorialisation, il y avait même une question hein, de savoir comment est-ce que les diagnostics globaux des collectivités alimentent aussi les prochaines étapes.
Donc, en début d'année, on a sollicité sur la base d'un questionnaire qui était national, là, pour le coup, qui avait été construit par le secrétariat général à la planification écologique et diffusé dans toutes les régions, à toutes les collectivités. Donc là, les remontées se sont effectuées sur le mois de février, sur le mois de mars. C'est en train d'être capitalisé pour ceux qui ont répondu au niveau national et on va en faire une exploitation au niveau régional à partir des éléments d'analyse qu'aura pu produire le SGPE et qu'on va s'approprier et redéployer notamment au cours des réunions départementales qui vont avoir lieu prochainement.
Cette remontée, on nous pose aussi la question de la redescente, finalement, sur quelle forme ces défis, ces objectifs seront-ils transmis aux collectivités et évidemment, quel accompagnement, moyens financiers ou humains seront mis en place pour soutenir les EPCI dans la gestion de ces objectifs.
Il y a plusieurs questions dans la question. Les défis, eh bien, ils sont présentés actuellement, ils vont contribuer, et c'est pour ça qu'on les partage, et c'est pour ça qu'on vous fait réagir les uns les autres sur, sur ces défis et sur leur construction, hein. Ça a été indiqué à l'instant, les travaux vont se poursuivre à travers les GT, on va réunir encore au moins deux fois, et puis les réunions départementales. Tout ceci va alimenter la construction de la feuille de route, hein, qui sera partagée. Hein, on a fait, ça a été dit en introduction et présenté par Eric, une COP de lancement au mois de décembre dernier, pour ceux qui s'en souviennent. On prend une COP de restitution aussi à l'ensemble des acteurs pour présenter le contenu de cette feuille de route. Et en plus, et ensuite, on est sur un processus long. Hein. Là, on est concentré sur la construction de la feuille de route, mais derrière, on est sur le temps du déploiement de cette feuille de route jusqu'à 2030. Donc, on va consolider les actions pour définir la feuille de route et puis après, on va les décliner pour s'assurer que dans le temps, eh bien, l'objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre, en activant les différents leviers, donc là, aujourd'hui, on a traité de celui des transports routiers de marchandises et des transports de marchandises, pardon, en général, et des transports de personnes, eh bien, constater dans le temps la manière dont évoluent les différents leviers qu'on a vus en introduction sur la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci Didier. Je vais me permettre de faire l'écho aussi des réunions, une qu'on a fait effectivement sur un certain nombre de thématiques maintenant il y a quelques semaines. Les participants ont partagé hein, leur envie de concret, d'action, et effectivement, merci de le rappeler. On fait cet exercice de construction de feuilles de route pour arriver à des actions très concrètes. Et donc, voilà, je pense que c'est un enjeu qui est partagé, en tout cas qui a été largement évoqué lors des premières réunions de travail. Donc, je me permets de m'en faire l'écho. Écoutez, merci beaucoup. On arrive au bout de notre temps ensemble ce soir. Je pense que les débats étaient riches, les questions étaient nombreuses. Encore une fois, on y répondra via le compte-rendu. N'hésitez pas aussi à réagir a posteriori, à envoyer hein, des questions à travers vos interlocuteurs habituels. Voilà, on veut que cet exercice de COP soit très participatif et on est vraiment preneur de la contribution de tous. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à réagir dans le chat et à réagir aussi par mail. Encore une fois, on reviendra vers vous avec le compte-rendu des échanges et puis le support qui a été partagé aujourd'hui. En tout cas, encore un grand merci pour votre participation. Et puis je pense à très vite pour de nouveaux échanges.